agenda, inviter un prédicateur extérieur, tout ça, pour que je puisse vraiment me concentrer sur ce temps de prière-là. Et Joël est un des prédicateurs qu'on aime bien accueillir ici de temps en temps. Il fait pas mal partie de la famille, puisque c'est le gendre de Normand Joseph, n'est-ce pas? Mais aussi, il a fait son stage pastoral ici avec nous. En fait, lorsqu'on était sur la rue Lassalle, on a travaillé ensemble, on a servi ensemble. Ceux qui sont avec nous depuis une dizaine d'années, vous connaissez Joël. Maintenant, on avait mis Joël à l'agenda, tout ça, et puis c'était pas encore clair où est-ce que je serais rendu dans les séries. On fait ça des mois d'avance. Et puis, j'avais sur mon cœur depuis des mois de prêcher sur la doctrine de l'adoption. Et je commence la série, tout ça, puis tout de suite, en commençant la série, on s'est dit, ça prendrait un témoignage. Ça prendrait un témoignage, quelqu'un qui a passé par ce processus d'adopter un enfant et qui puisse un peu nous parler, n'est-ce pas? Du cœur de parent, du cœur de père lorsque tu adoptes un enfant, puisque nous-mêmes sommes des enfants adoptifs de notre Père céleste. Et je ne sais pas où j'avais la tête, mais je ne me rappelais même pas à ce moment-là que Joël avait adopté avec Julie, qui avait adopté Mathias, puis pourtant j'avais suivi l'aventure par courriel avec eux. Et donc j'ai vu encore une fois la bonté de mon Père céleste qui avait à cœur qu'on puisse entendre cela. Et lorsque j'ai appelé Joël, puis j'ai dit, tu sais Joël, je trouve qu'il y a plein de chrétiens qui vivent sur la terre comme s'ils étaient des orphelins. Nous ne sommes plus orphelins, mais pourtant, au quotidien, nous marchons comme si nous n'avions pas un bon père qui veille sur nous. Et tout de suite, Joël savait de quoi je parlais, puisqu'il est pasteur à Trois-Rivières. Il accompagne des chrétiens, il jase avec des chrétiens dans leur lutte quotidienne, dans leur combat. Et donc, il voyait où je m'en allais. Et c'est lui qui va nous apporter la parole ce matin en nous partageant un peu leur expérience avec Mathias. Bienvenue, Joël, tu peux venir nous rejoindre. J'aimerais prier pour toi. Seigneur, je veux te remercier pour Joël et Julie. Je veux te remercier pour leur amour pour toi, pour ce compagnon d'œuvre, Seigneur. Tu as placé sur son cœur une vraie passion pour ton évangile. Joël, Seigneur, tu l'as adopté. Tu es allé chercher un fils rebelle, un fils contestataire, Seigneur. Et tu as fait de lui un homme de Dieu. C'est vraiment une grâce pour moi de le voir attaché à toi, de le voir grandir en maturité, en humilité, en humanité, en tendresse, Seigneur. On découvre à travers cet ouvrier, à travers les années, combien son cœur est tendre et combien il aime et comprend de plus en plus, Seigneur, les passions et les luttes du cœur humain. Je te demande, Père, de mettre ta main sur son cœur et sur ses lèvres ce matin. Viens nous édifier, Père. Viens nous parler de toi, de ta gloire, de ta bonté, de ton amour, de ton affection à travers ta parole, et à travers leur expérience. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.
Amen. Amen. Merci. Bien, bonjour à tous. C'est une joie, un plaisir d'être avec vous ce matin. Est-ce correct, mon micro, c'est bon? OK. Bien, en fait, ce que Yannick disait, stage pastoral, ça fait déjà 15 ans exactement de cela. C'était en 96. Yannick avait commencé à plein temps en début d'année, et avec Claude Beaulieu, j'étais arrivé en septembre, et j'ai été en formation, j'ai resté un petit bout de temps à traîner, et j'ai été quelques années à Montréal comme pasteur, et depuis 11 ans, bien, je suis un des pasteurs à l'église baptiste de Trois-Rivières, où je suis très, très, très privilégié de servir. Je ne mérite pas de servir là-bas, et le Seigneur nous a permis d'arriver sans enfant là-bas, puisqu'à l'époque, on ne pouvait pas avoir d'enfant. Ma femme était suivie en fertilité. On était suivis en fertilité. Évidemment, faut pas blâmer un des deux tout de suite en partant. Et finalement, le Seigneur a permis qu'elle soit opérée et dans le processus entre Antique et Longueuil. Et finalement, deux mois après qu'on soit engagé par l'Église de Trois-Rivières, Julie est tombée enceinte de notre premier enfant. Et c'est avec beaucoup de joie, puisque ça avait été un périple de foi et de leçons à travers ce processus de pouvoir avoir des enfants. Et bon, ben ça a pas arrêté avec un. Il y en a eu d'autres après. On s'est occupé et le Seigneur nous a bénis. Et c'est vraiment une joie ce matin d'être avec vous et de partager avec vous, surtout dans ce cadre de fin de semaine d'Action de grâce, dans le cadre de la série que vous faites, parce que je suis extrêmement reconnaissant au Seigneur de la famille qu'il nous donne. Je suis privilégié. Je ne mérite pas mes enfants, je ne mérite pas ma femme. Tout est pure grâce que j'ai de la part de Dieu et j'en suis profondément reconnaissant. Et je veux le dire en commençant cette fin de semaine pour l'action de grâce, tout nous vient de Dieu. Pure grâce. le soleil ce matin qu'on a en fin de semaine, l'air que nous respirons ce matin, un jour de grâce que plus que Dieu nous a donné. C'est une pure grâce que Dieu nous donne chaque instant. Et donc, c'est un privilège dans ce contexte-là de partager avec vous. Je vous salue aussi au nom de l'Église Baptiste évangélique de Trois-Rivières, qui, comme vous, est dans des projets d'action de grâce. Et nous, on vient de saluer le départ de presque 100 personnes de l'Église qui sont parties pour une implantation sur la rive sud de Trois-Rivières. Alors, il y a 60 ans, on faisait des projets d'implantation sur la rive sud de Montréal. On est rendu à faire des projets d'implantation sur la rive sud de Trois-Rivières. Alors, à Bécancour, dans le village de Saint-Grégoire. Alors, ils sont maintenant plus d'une centaine. Ils étaient 116 dimanche, il y a deux semaines, avec pasteur Israël-Luc Godfrey, qu'on a engagé il y a un an comme pasteur implanteur, et qui sont là. Et notre projet de l'Action de grâce est un peu différent. Pour nous, c'est le lancement de l'Église fille, et on veut les aider à payer un bâtiment, et c'est un défi de 300 000 $ que le Seigneur a placé sur le cœur des leaders pour ce projet. Je vous dis pas qu'on va l'avoir dans deux semaines. En fait, j'ai aucune espèce d'idée comment on va l'avoir, en toute franchise. On demande à Dieu de conduire dans ce projet. On a 30 000 pour l'instant. Et là, on attend ce que le Seigneur va faire pour donner un saut d'approbation pour avancer dans un projet qu'on a sur une belle bâtisse qui reste beaucoup de travail à faire dedans, juste à 1 km de l'autoroute 55 au village de Saint-Grégoire sur le boulevard des Acadiens. Alors, vous pourrez prier pour ça à travers votre projet. Et on avait justement un don aussi qui était envoyé à des gens de Cuba. J'étais content de voir le ministère d'intérêt qu'il y a pour à Cuba. On a un pasteur qui est venu il y a quelques mois, qui nous a partagé. Ça, on ne sait pas comment il a réussi à avoir son permis pour venir, mais il nous a partagé le ministère là-bas. Ça a beaucoup touché l'Église. Et on avait un couple il y a deux semaines qui était là, qui amenait un don à Guadalavaca, dans la région de Holguin. Et pendant que moi et ma femme, de manière purement égoïste, on est en train de profiter de la plage. On n'a pas été voir personne en sauvage. Et on était plus au nord pour être sûr de ne pas être tenté d'aller là non plus. On voulait, nous, de notre côté, se reposer. Et c'est tout un ministère là-bas. J'ai entendu beaucoup de choses du pasteur José qui est venu nous voir. Et je suis content de voir aussi que le Seigneur a mis sur le cœur de l'Église ce même projet aussi. C'est un privilège de faire ça. Bien, comment commencer ce matin? J'aimerais commencer par une petite histoire que j'ai lue cette semaine et que je trouvais intéressante sur l'aspect d'être héritier. L'histoire se passe en 1949. Un homme vit des moments difficiles. En fait, il est au chômage. Je ne sais pas comment était son chèque de chômage à l'époque, mais ça ne devait pas être grand-chose. Et il était dans la pauvreté et il se promenait sur les plages de San Francisco. Et en se promenant sur la plage, évidemment, et tu vois toutes sortes de cochonneries dans l'eau, il ramasse une bouteille qu'il trouve dans l'eau. Pur hasard. Il ouvre la bouteille et dedans, il lit ce mot suivant. Pour éviter toute confusion, je lègue tout mon héritage à la personne chanceuse qui trouvera cette bouteille. Et à mon avocat, Barry Cohen. Partager et partager également. OK. C'était signé Madame Daisy Singer Alexander. C'était l'héritière de la famille Singer. Vous savez les machines à coudre Singer en Angleterre? C'était l'héritière qui, 12 ans auparavant, avait jeté la bouteille à l'eau à Londres, dans la Tamise. Et fouillez-moi comment ça s'est rendu là. Ça a pris 12 ans. La petite bouteille a voyagé jusqu'à San Francisco et cet homme-là, du nom de Jack Worm, trouve cette bouteille et devient évidemment un homme qui venait juste de régler son problème de chômage et de pauvreté. Ça a dû prendre quelques démarches, j'imagine, puis quelqu'un l'aide à payer le voyage jusqu'à là-bas et tout le tralala, mais bon. Et la Bible, vous savez, nous dit que nous sommes des héritiers sans avoir besoin de passer par un tel parcours chanceux. Et d'une richesse bien au-delà de ça. Ça a fait certainement sa semaine, et j'imagine bien des années de joie dans sa vie, cette possibilité d'être riche et de recevoir tout cela. Et on se dit, ben c'est pas offert à tout le monde, c'est une situation particulière. Et ce que je rends grâce à Dieu, c'est que chacun d'entre nous avons le privilège d'être offert de la part de Dieu, une main tendue, pour devenir enfant de Dieu, adoptif et par ce fait même héritier d'une richesse incomparable qui ne se limite pas à un beau voyage à Cuba, une belle maison confortable, un travail qui nous donne beaucoup de joie, une famille qui nous donne beaucoup de fierté ou quoi que ce soit d'autre. Une possibilité sans mérite, sans chance, mais de pure orchestration divine, la possibilité de recevoir l'adoption divine. Et vous savez, Yannick a dit tantôt que c'est une lutte dans l'Église et pour beaucoup de croyants de vivre pleinement la réalité d'être adopté par Dieu. Et je commence ce message en vous disant ceci. Je suis l'un de ceux-ci. Je lutte, pas intellectuellement, dans la réalité du quotidien, souvent émotionnellement, avec le fait de vivre quotidiennement que je suis un enfant de Dieu adopté et que j'ai plein pouvoir en Jésus-Christ de vivre la liberté. Je suis héritier et pourtant je ne vis souvent pas comme héritier. Je ne le sens souvent pas que je suis un héritier. Je lutte avec le fait de vivre souvent ma vie chrétienne comme un orphelin qui se bat dans la vie pour mériter tous les petits morceaux de terre puis aller chercher dans la vie. Et qui se tourne vers le Seigneur quand je suis au pied du mur et que là je suis incapable de rien faire, que là ça va vraiment pas, que j'ai tout fait mes efforts possibles, que j'ai tout fait mes efforts, là maintenant je peux demander à Dieu. Parce que là j'ai rien d'autre en fait. C'est ça ou c'est le désespoir. Il y en a comme ça qui s'identifient avec moi un peu, ou je suis tout seul, peut-être je suis seul. Désolé, je viens de baisser dans votre estime beaucoup ce matin, hein? C'est déprimant, un prédicateur qui lutte comme ça. À Trois-Rivières, on est habitué, fait qu'ils s'habituent avec des prédicateurs limités comme ça, mais on est un paquet, en tout cas à Trois-Rivières, on est un paquet comme ça qui lutte avec cette réalité-là. Pourquoi? Hein? Ah, c'est bon. Il y en a qui vont prier pour nous. Il y en a d'autres. J'ai remarqué deux choses lorsqu'on lit un passage, par exemple, comme le psaume 1, où ce qu'on parle du bon et du méchant, du chemin du bon qui médite la parole, qui s'éloigne des situations qui sont fâcheuses, qui sont néfastes pour lui, etc. Et de voir le profil du méchant. Il y a ceux qui regardent ce passage-là, qui, comme moi, je dois vous l'avouer, je le confesse, qui sort la petite feuille avec une checklist, puis qui disent « Ouais, j'ai fait ça. Ouais, je fais ça. Ouais, je lis ma Bible tous les jours. Ouais, c'est bon, clocher. » Et qui, là, sont en train de faire une coche de performance, hein? Parce que, tu sais, on a une discipline chrétienne, nous autres, puis on veut vraiment, on est décidé, on persévère. Alors, on se donne tout un mécanisme qui fait qu'on se considère comme étant de bons chrétiens qui cochent la case et qui ont quand même, tu sais, à l'apparence, une bonne note. Là. Et il y a ceux qui abordent le psaume en disant, Oh, moi, j'ai tellement de la misère juste à lire ma Bible. Oh, je suis pitoyable. Ah, puis moi, j'ai de la misère à dire non à des mauvaises amitiés, puis je lutte avec ça tout le temps. Puis souvent, j'ai des intentions peu, parce que je voudrais partager l'amour que j'ai reçu. En même temps, c'est lamentable, parce que souvent, c'est eux autres qui m'influencent plus. Puis, oh, je suis tellement poche comme chrétien, là, tu sais, là, pitoyable. Et là, je marche plus coupable. Puis là, je regarde la liste, puis je dis, non, ça, je fais pas ça. Ah, oh, ça, j'ai bien de la misère à faire ça. Ah, oh, non, ça, c'est terrible. Oh. Et là, alors, finalement, je finis la liste, je me dis, j'aurais dû pas lire, là, puis sûrement un matin. Là, il faut que je prie le Seigneur pour lutter avec ma culpabilité d'être un chrétien poche. Puis là, ah, que je suis pitoyable. Ah, si les gens savaient comme je suis comme chrétien, ah, ils voudraient même pas se tenir avec moi. Tout à coup, c'est contagieux d'être poche de même comme chrétien, tu sais. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, il y en a qui se disent, ouais, là, OK, moi, ouais, je me situe, moi. Hein? Et d'un côté, certains luttent avec, d'un côté, l'orgueil spirituel. Quand on est très confiant, qu'on a une bonne discipline, qu'on fait ci, qu'on fait ça, on est chrétien. Et un de nos pasteurs en formation appelle ça un chrétien coche la case. J'aime bien l'expression, un chrétien coche la case. Et on lutte avec l'orgueil spirituel. C'est ce qu'on fait. On vit notre vie chrétienne avec nos forces et nos moyens, nos disciplines, notre détermination. Et notre vie chrétienne, honnêtement, peut devenir extrêmement charnelle. Et très, très peu récompensable de la part de Dieu. Et honteusement, je dois vous dire que c'est mon cas. Je lutte avec ça activement. de vivre ma vie chrétienne de mes propres forces comme un orphelin chrétien. Pourtant, adopté de Dieu, héritier du royaume, et pourtant, c'est ma lutte. Et peut-être certains d'entre vous disent, ils ne diront pas haute voix, là, mais je m'identifie un peu avec ça, Joël. Et d'autres disent, non, c'est de l'autre côté. Moi, je lutte avec l'apitoiement, la culpabilité, et finalement, je ne bénéficie pas plus des privilèges de l'adoption en Christ que j'ai, d'être enfant de Dieu. Je m'apitoie, et là, on appelle ça de l'orgueil caché. Parce qu'on attire l'attention sur nous encore là, mais pas de nos bons coups, mais pauvre de moi, puis moi, là, je suis pas un bon modèle, puis moi, là, oh, je suis tellement poche, puis moi, personne ne veut se tenir avec moi comme chrétien, puis oh, moi, j'ai tellement peu d'impact comme ici, j'ai même pas de ministère, ça paraît même pas. Et là, on tire l'attention sur nous, mais de manière subtile, on appelle ça de l'orgueil caché. Et je remarque que beaucoup des croyants se trouvent d'un camp ou de l'autre, hein? Selon nos caractères, selon nos blessures qu'on a vécues dans la vie, selon le chemin qu'on a reçu, l'héritage familial, toutes sortes de circonstances vont nous amener à lutter souvent d'être d'un bord ou de l'autre. Et on est des êtres qui sont en quête d'équilibre, et c'est très difficile. Et je crois que le sujet de l'adoption ici est d'autant plus important lorsqu'on comprend ça. Pour moi, c'est un sujet important et que même il y a 3 ans, je n'aborde plus la même manière du tout, du tout, du tout, du tout. Lorsqu'on l'a adopté, Mathias, de cela, 3 ans et quelques poussières, j'avais préparé un message que le Seigneur avait mis à cœur de préparer sur l'adoption. Et je vous avoue, pas écouté, ça m'aurait trop découragé peut-être, juste relu mes notes, c'était en masse. Et je me suis dit, oh boy, je ne répéterai pas le 3/4 parce que c'est tout dans la tête. C'était tout dans ma tête. Et 3 ans plus tard, le Seigneur m'a amené à rencontrer plus de murs qui m'ont fléchi les genoux humblement. Pas parce que je voulais être humble, là, j'ai juste pas eu le choix, c'était ça, ou déprimé, là, alors j'ai opté pour les genoux. Là. Et par pure grâce de Dieu, honnêtement, là, j'ai aucune gloire là-dedans. C'est le Seigneur qui m'y a obligé et je le remercie parce que j'ai vu sa main douce, aimante, qui m'a amené à apprécier davantage qui je suis comme enfant adopté en Jésus-Christ. Alors, c'est dans ce contexte-là que je vous partage ce matin et qu'on m'a demandé, pas juste de prêcher, en réalité, je vais peut-être plus... En fait, il n'y a rien de conventionnel de ce que je vais faire. Alors, fiez-vous pas à 1, 2, 3, 4, puis bingo, vous aurez la solution pour votre vie. Vous êtes mieux de repartir tout seul, je n'ai pas rien de ça à offrir. C'est une lutte difficile que je vous parle. C'est un partage que je vais faire avec vous, honnêtement, d'un cœur à un paquet de cœurs autres. Et en toute humilité, ce que nous, on a appris à travers cette expérience que Dieu nous a appris dans notre famille, dans des épreuves personnelles entre nous et Dieu, ma femme et moi, et entre aussi nous et les gens, la manière qu'on aborde les gens dans le ministère maintenant, et qu'on comprend certaines choses qui, l'épreuve, nous a forgées, et qu'on comprend maintenant davantage sur notre identité comme enfant de Dieu, adopté de Dieu, sans aucun mérite. Notre histoire a commencé, vous savez, il y a très, très, très longtemps. En fait, en passant à ce que je vous partage, ma femme a dit que c'est correct. Juste vous sachiez, là, fait que pour les femmes, là, on l'a concerté ensemble, parce que je vous partage, c'est aussi très personnel, c'est des choses qu'on partage vraiment de nous deux. Et si ma femme n'est pas là le matin, c'est parce que moi, j'ai le don de parler en public, elle a le don de chanter en public. Donc, chacun sa place pour qu'est-ce qui est de servir en avant des gens. Mais l'histoire a commencé il y a bien longtemps. Le Seigneur a mis sur le cœur de mon épouse comme enfant. Je ne pourrais pas vous expliquer les circonstances, tout ça, mais le Seigneur avait mis sur son cœur bien longtemps avant qu'on se rencontre d'avoir à cœur à adopter un enfant. Et c'était quelque chose qui était là depuis très jeune. Non qu'elle avait vécu une expérience dans son enfance ou autour d'elle, nécessairement dans ce sens-là, mais c'est quelque chose que le Seigneur avait mis sur son cœur. Et chose intéressante, lorsqu'on se fréquentait, en 97, déjà dans nos fréquentations, elle me l'avait partagé en partant que c'était quelque chose qu'elle désirait. Et moi, de mon côté, le Seigneur m'avait préparé de manière très haute. J'avais pas aspiré à l'adoption dans l'avenir. Mais le Seigneur m'avait fait vivre des choses sur l'adoption qui faisaient que pour moi, l'adoption, c'était une notion tout à fait naturelle. Ma mère, son père est décédé, sa mère est décédée alors qu'elle était au début de l'adolescence, 12-13 ans. Elle est adoptée par sa sœur, une de ses grandes sœurs, et son époux. Et ils sont pour moi grand-papa et grand-maman Côte-Noire. Certains d'entre vous les connaissez, Nita et Gabrielle Côte-Noire. Et ils l'ont adoptée comme leur fille, même s'il était sa belle-sœur, sa sœur. Et ils l'ont élevée pendant 12 ans, jusqu'à temps qu'elle se marie, elle était pour eux leur fille. Et pour nous, ils ont toujours été nos grands-parents. Et on a appris une chose jeune dans la vie, c'est que d'être grand-parent et d'être parent n'était pas une question biologique, mais était une question de responsabilité menée par une personne envers une autre. Et c'était une question de responsabilité que mon grand-père et ma grand-mère et mon grand-père ont ensemble fait comme couple, et on remplit ce rôle d'amour, ce rôle de sécurité, ce rôle de discipline, d'enseignement et de passer le flambeau de leur foi. Et j'ai appris très jeune cela. Je me rappelle, souvent les gens disaient « Ah, mais c'est même pas ton grand-père. Hein? Mais de quoi tu parles? C'est sûr que c'est mon grand-père. Comment ça? Ben ouais, mais dans le fond, c'est le frère. » Ça dérange rien. Il a élevé ma mère. Pour moi, c'est mon grand-père. De dire mon oncle serait pour moi là, un anachronisme aberrant, ça serait de gifler mon grand-père en pleine face. Ça serait de cracher sur l'amour d'une manière incroyable parce que c'est ce qu'il a été dans les faits. Vous comprenez? Et jeune, j'avais à débattre. Je me rappelle, j'avais 8 ans puis quelqu'un était en train de s'ostiner là-dessus avec moi. Je suis en train d'expliquer pourquoi dans la famille, comment ça marchait, puis que c'était vraiment mon grand-père, là. Mon grand-père était bien fier, hein? Évidemment. Mais c'est quelque chose qu'on a appris jeune. Et mon beau-frère a été adopté lui-même. Et dans ma famille, ma petite sœur, en même temps qu'on a adopté Mathias, adoptait une petite fille dont le demi-frère avait été adopté par une de mes cousines. C'est une histoire, hein? Je vous amènerai un dessin la prochaine fois, une généalogie. Hein? Pour ceux qui sont très cartésiens comme moi, là, une image vaut 1000 mots. Alors, Seigneur avait préparé ça et on avait chacun notre histoire et Seigneur nous avait préparé. Au début, on ne pouvait même pas avoir d'enfant. Au tout début, c'était déjà un cadeau de Dieu. Et chose intéressante, le Seigneur a permis que lorsqu'on a rencontré une intervenante pour la première fois, c'était en 2001, cet intervenant nous a dit, si tu veux être famille d'accueil en banque mixte, il faudrait que tu mettes ton nom sur la liste d'adoption. Ce qui est normalement pas la chose qu'ils font, en tout cas, normalement. Mais c'est ce qu'il nous a dit de faire, et on l'a fait, et finalement, Julie était tout le temps enceinte. Fait que là, il n'y avait pas moyen d'adopter parce que finalement, t'es enceinte, il faut t'attendre un an, puis elle était toujours enceinte, ma femme. Je sais pas ce que. Fait que là, ça reportait tout le temps. J'ai dit, chérie, c'est de ta faute, là. C'est de ma faute aussi, là, c'est correct. Je prends le blanc. Alors, le Seigneur a permis que finalement, on avait un enfant, on était occupé, on était dans, et ça n'arrêtait pas, un arrière de l'autre, et là, une fille, une autre fille, une autre fille, encore une autre fille, et là, on a réalisé qu'on avait vraiment un don pour les filles, hein. C'était, il y en a qui ont des dons. Moi, c'était le don de faire des filles. Moi, c'est vraiment ça, mon don. Mon grand-père faisait 4 filles pour 1 garçon. 4 filles pour 1 garçon. Il en a fait 13 comme ça. Alors, il y avait vraiment un pattern, là. Ça a l'air que c'est de ma faute, en plus. C'est le côté des hommes, ces affaires-là. C'est ce que les femmes disent, en tout cas. Alors, et là, certains disent, on sait bien, hein, c'est la raison pour laquelle ils ont adopté, c'est parce que là, Joël était tellement déprimé qu'il ne se voyait pas aller dans la vie comme ça avec juste des filles. Il voulait avoir un gars absolument. Fait qu'ils ont adopté un gars. Hein? Il y en a plein qui veulent confesser que c'est ça qu'ils pensaient, qui m'ont jugé. Excellent. D'autres qui m'ont jugé, c'est bon. Excellent. Ça va faire du bien. Hein? On fait ça en groupe. Mais non, moi, j'en avais fait mon deuil. J'ai dit, Seigneur, tu veux travailler ma compassion. C'est évident. Alors, je dis, Seigneur, moi, j'accepte les filles. Puis là, j'étais habitué, hein. On lave des petites filles. Là, j'étais habitué, moi, les filles, c'était dans mon élément, moi, là c'était là, comme naturel, là. Et là, mais quand on gardait un petit garçon, je dis, oh, chérie, là, je change. Moi, j'étais habitué aux petites filles. Moi, c'est comme le modèle dans lequel je suis confortable. Fait que même quand on gardait mon neveu au début, je disais, chérie, tu peux t'en occuper. Hein, c'était comme. Et finalement, je sais pas pourquoi, mais la femme de DPJ, rendue à ce moment-là, quand c'était rendu un an avant, a dit, je pense que ce serait bon pour vous d'avoir un fils. A déduit ça toute seule. C'est des gens très qualifiés à DPJ. Ils ont vu ça dans le profil. On vous recommande un garçon. Et moi, j'étais comme correct avec tout ça, mais c'est ma femme qui, je pense, qui était une coche de plus exaspérée à Z. Je pense que la 4e, c'était pire que pour moi. Elle dit, oh, une autre fille. Pourtant, on ne l'échangerait pas, là. Non, on s'entend, là. Mais c'était comme, me semble, là. Et le Seigneur l'a fait de cette manière-là. On n'aurait jamais pu l'orchestrer. C'était de Dieu. Et vous allez comprendre aussi pourquoi. Alors, ça a pris des années. Finalement, en 2007, la madame nous appelle, la DPJ. Nous autres, on venait juste d'avoir une discussion pour dire, bon, ça bouge pas, on n'a même pas de nouvelles. Ça fait 6 ans à ce moment-là. Tu sais, Seigneur, veux-tu qu'on adopte peut-être à l'international ou peut-être on est vraiment fatigué, là. Julie, sa santé était moins bonne. On se disait, ben, peut-être Seigneur veut qu'on arrête là, tout simplement, c'est peut-être ça. Et là, en plein milieu de tout ça, là, on était sur le bord de la piscine, dehors, en plein été, beau soleil, on leur reçoit, bonjour Monsieur Lapierre, on voulait vous dire que votre nom est rendu là à un certain stade dans la liste, vous êtes 11e, 12e, et on voudrait préparer le dossier parce que ça pourrait prendre peut-être 1 an. Ah ben, on s'en attendait pas en tout. Mais pas pantoute. Et là, on s'est regardé, ma femme et moi, on l'a vu vraiment le Seigneur nous faire un clin d'œil. Et là, on a rencontré la femme qui s'occupait de notre dossier. Et on a eu un processus avec elle qui, en tout cas, était de fond en comble. Hein. Si vous pensez que la police pose des questions, là, attendez de rencontrer quelqu'un de la DPJ pour des questions pour adopter. Parce que là, vous allez voir que si vous pensez que vous avez eu des questions personnelles, vous n'avez pas eu des questions personnelles encore. Je vous le garantis, des questions que même mon père m'a jamais posées. Tu te fais déshabiller. Il pourrait te mettre tout nu, ça serait pareil. Là. C'est vraiment, là, ils ont passé toute là, notre vie sexuelle, notre enfance, nos perceptions de ci, de ça. Et à travers ça, on était un peu aussi vulnérables et insécures. On se disait, comment ils vont percevoir le fait qu'on soit chrétien, que je sois pasteur, c'est encore pire comme bébite. Tu dis, en plus, c'est un gourou de secte là, pour eux autres qui regardent ça, puis ils disent, un évangélique. Tu sais là, fait que... Fait qu'on avait des craintes là-dessus sur certaines choses qu'on devrait partager avec eux. Même on se disait, tu sais, face à nos enfants, comment ils vont nous percevoir, ils pourraient nous donner de la misère. Beaucoup d'insécurité. Puis on a dit, Seigneur, regarde, on donne ça, là, on a des questions, on se place très vulnérable dans cette situation-là. Il faut que tu interagisses avec nous pour nous donner la paix, puis que tu prennes soin de cette situation-là parce qu'on est vulnérable à tout niveau, de se faire rejeter, que de se faire juger, que de se faire attaquer, etc. Et Seigneur a donné une intervenante qui était le bureau d'à côté de Simon. Simon, c'est quelqu'un qui a un merveilleux témoignage et qui était un leader de louange à l'église. On vient de le marier une semaine et il est parti à Bible Parle à Montréal. Dans ce cas-ci, c'est qui prend épouse, prend pays. Fait que on l'a perdu, mais il était le bureau d'à côté. Il a un bon témoignage. Je l'avais marié il y a plusieurs années de cela. Et devant ses collègues, c'est un homme à un témoignage impeccable. Et déjà en partant, Seigneur avait préparé le contexte pour cette femme qui nous rencontre. On l'a passé à travers le processus et finalement, après ça, on était dans l'attente. Et il nous a appelé 1 an exactement après, en juillet, pour nous dire, il y a une dame qui va accoucher prochainement, une jeune fille dans la région de Drummondville, et qui veut placer son enfant à l'adoption. Vous êtes les 3e sur la liste. Les premiers veulent une fille. Les 2e, je suis pas sûr s'ils sont prêtes. Elle avait des réserves. Et vous êtes les 3e. Donc, si c'est un garçon, c'est possible que ce soit pour vous. Si c'est une fille, ben c'est eux autres qui sont avant. Et là, dans notre cas, bien, c'était pour un garçon. Alors, en partant, on était éliminé là-dessus. C'était clair dans l'attente. Alors, finalement, bon, on commence à faire des démarches, mais là, on se dit, c'est pas ce qui va arriver, là. T'attends l'accouchement, là, tu sais. Mais finalement, la madame, ben, ça prenait du temps, finalement, elle est tirée de 2 semaines, elle savait pas quand elle avait commencé, fait que finalement, elle devait commencer le cégep, j'imagine, cette jeune femme-là, et elle a été provoquée, finalement, le 19 août 2008, et c'était un petit garçon. Et le petit garçon est sorti en partant avec une maman, biologiquement, qui savait même pas si c'était un garçon ou une fille. Ils l'ont enlevé, elle l'a jamais regardé, ils sont partis avec, et elle l'a plus jamais revu après ça. Et il a été amené 2 jours plus tard, il est encore tout chaud, il est amené à la maison. Et chez les Lapierre, le 21 août 2008. Et on a remercié le Seigneur pour ce privilège d'accueillir Mathias chez nous. Il portait le nom de Alex, et on a décidé d'ajouter le nom de Mathias comme 2e nom, Alex, pour garder. On ne savait pas quel était le sens du choix du nom. Fait qu'on s'est dit, on veut garder quelque chose de son ancienne vie, de sa mère biologique, et qui aussi lui montrait notre ouverture personnellement à ce que si un jour ou l'autre, il avait porté l'intérêt, bien, qu'il pourrait contacter la DPJ et faire des démarches avec toute liberté de notre part, de sa part, pour faire cela. Si évidemment, c'était réciproque, parce que vous savez qu'à la DPJ, ça doit être une démarche qui est faite auprès d'un médiateur, dans le fond, d'un intermédiaire qui est la DPJ, et ils ont un service pour ça, si ça vient des deux côtés. Alors, Mathias est rentré dans notre vie et ce qui est intéressant, c'est que c'était un projet de famille. Donc, les filles, surtout les deux plus vieilles, lorsque Mathias est arrivé, ils ont encore les souvenirs comme c'était hier. Ils se souviennent, ils avaient prié pour cette situation-là pendant des mois, mais particulièrement dans les derniers jours. Et Mathias s'est ajouté à notre famille et j'ai pu à ce moment-là bénéficier d'une paternité pendant les mois qui ont suivi pour aider à la maison puisque là, on se ramassait avec 5 petits. Ariel, à ce moment-là, elle avait même pas encore ses 7 ans. Excusez-moi. Et donc, c'était de la job à maison. La santé de Julie n'était pas bonne aussi. Je l'avais mentionné précédemment. Fait que j'ai pris le paternité et finalement, même tous les projets que j'avais entrevu faire pendant le projet paternité, on l'a respecté, la paternité, et ça a été la chose première. Et en cours de route, les choses sont pas allées comme on voulait. Et ça arrive dans l'adoption, ça arrive dans des familles normales, biologiques, et les enfants arrivent naturellement. L'enfant tombe malade. Sans avertissement, sans signal d'alerte, sans quoi que ce soit. Tout à coup, Mathias, en début janvier 2009, a commencé à faire des crises d'épilepsie. Et c'était des crises d'épilepsie qu'on appelle du gros mal et qui étaient répétitives. Et finalement, même en avoir un arrêt respiratoire à l'urgence de Trois-Rivières qui les a amenés à paniquer et de l'envoyer à Sainte-Justine. Et je remercie le Seigneur pour ça. Ça a permis simplement d'avoir des services plus rapidement et des services compétents aussi pour lesquels on est extrêmement choyés. Et on a passé finalement, le mois de janvier, j'ai passé 10 jours sur 30 à l'hôpital. Et ma femme est à la maison avec les 4 autres. Et c'était une situation difficile. Et pendant un certain temps, on se disait, ben, même que je recommence à travailler, là, si ça continue comme ça, là, ça va être longtemps, puis je vais brûler la chandelle assez vite, merci. Et on a commencé à se poser des questions. On se disait, Julie et moi, bon, peut-être je devrais revoir mes responsabilités, revoir à la baisse mon salaire et mon temps alloué à l'Église pour travailler, voir si c'est possible de couper ma charge et mon salaire pour pouvoir avoir plus de temps. Mais en même temps, c'était pas comme j'avais un gros salaire, c'était insécurisant, c'était comment on va arriver à faire ça. On n'avait pas les allocations pour Mathias, c'est un enfant en voie d'adoption. Ça a pris quand même 11 mois avant que tout soit signé. Fait que donc, beaucoup de paperasse, ça prend du temps. Ça a pris au-dessus de plus d'un an que toutes ces choses-là soient terminées. Alors, on était un peu dans l'épreuve, un peu sans réponse. Et on avait parlé ensemble, et à un moment donné, dans une réunion de conseil, il est arrivé différentes circonstances, etc. Et le Seigneur m'a donné une paix à ce moment-là, que c'était la chose à faire, que Dieu voulait que je prenne un recul et que je demande de travailler 4 jours semaine, qu'on coupe ma paye de 20% et qu'on va demander au Seigneur de pourvoir et de nous aider à traverser ça parce qu'on voyait pas comment ça allait continuer. On rentrait continuellement à l'hôpital, l'ajustement des médicaments, ça marchait pas, une gastro, il n'y a rien qui rentrait. Puis ça arrêtait pas là, à un moment donné, c'était difficile. Et le Seigneur a permis au cours des prochains mois que les choses se rétablissent, qu'on trouve au bout de quelques mois une stabilité quand même dans tout ça. Mais avec le temps, ce qui s'est passé, c'est qu'on a découvert aussi que chez Mathias qu'il accumulait beaucoup de retard dans son développement. Au tout début, il était sur le frisium, sur un autre médicament, et il lui passait littéralement là, 18 heures par jour, gelé comme une balle, à dormir. Il dormait continuellement, là, des 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, 12 heures, 13 heures la nuit. Il était peu éveillé parce que ça prenait du temps avec son système à s'ajuster à assimiler le frisium. Il avait double de la dose selon ce que les livres permettent. Et c'est ce que le neurologue considérait comme étant acceptable dans son cas parce qu'ils n'arrivaient pas à contrôler. Fait qu'il y avait 3 médicaments. C'était pénible pour nous puis pour la santé de Julie à travers ça. Et bon, le temps est avancé. Et il y a un an, le neurologue a tiré le cri d'alarme pour dire, bon, ça marche pas, là. Il y a un retard. Il marchait pas à 2 ans. Il avait quasiment 2 ans. Il marchait pas. Il faut aller chercher des services, puis il faut faire plus. Alors, la dernière année, on a passé une année à attendre à Sainte-Justine pour toutes sortes de rendez-vous en génétique, faire l'IRM, faire toutes sortes de choses pour comprendre. Et on a commencé à être dans les services d'aide à l'intervalle pour réadaptation, physio, ergo. Et là, quand on ramasse là-dedans, ben ça rentre la main d'un tordeur qui tire, qui tire, qui tire, puis qui tire. Parce que là, toutes sortes de rendez-vous, toutes sortes de services. Et évidemment, comme parents, on veut donner le maximum à notre enfant pour réussir dans la vie, que ce soit pas quelque chose qu'on ait négligé, un manque de persévérance qui est pas donner le maximum des chances qu'elle se développe et avoir tout de son côté pour réussir, car on aime Mathias. Et je demandais encore à ses sœurs ce matin, les deux plus vieilles qui sont plus conscientes de toutes ces choses-là, est-ce que vous trouvez, est-ce que Mathias est différent? Est-ce que vous l'aimez différent de vos sœurs? Et les deux ont dit la même chose séparément l'une de l'autre. J'ai fait le test. Il a dit non, s'il y a de quoi, même peut-être un petit peu plus. Parce qu'il est spécial. On l'aime. Et je demandais, ouais, mais papa et maman, des fois, est-ce que vous sentez que papa et maman vous ont négligé parce que c'est quelque chose qu'on a lutté avec, 30 jours à l'hôpital, maman qui est toute seule à bosser à la maison, puis est-ce qu'on vous a négligé? Est-ce que tu sens que, Mathias, on le traite avec plus d'importance ou qu'on vous néglige à travers ça? Et c'est intéressant, elle dit non. Elle dit, vous nous aimez égal, tout est pareil. Et de la bouche des enfants, généralement, sortent, nos deux plus vieilles sont assez capables de dire ce qu'ils pensent, là. Et j'étais content d'entendre leur manière de aborder la situation. Parce qu'évidemment, ils participent quand on va à l'ergophysio, qu'il y a une journée pédagogique, ils viennent avec nous. On essaie de les faire participer, les deux plus vieilles, depuis qu'ils sont tout jeunes, depuis que ma soeur s'est arrivée, donnent le biberon, les deux plus jeunes, les deux plus vieilles. Les deux plus vieilles, depuis 2 ans, changent les couches, le nourrissent. Souvent, la deuxième prend son bain avec et lave son frère, le sèche, l'habille et le prépare pour le lit. Puis nous, on va s'occuper de le coucher. Ils participent et la deuxième est peut-être plus maternelle encore, fait que c'est plus marqué de la part de Ève. À droite, vous avez Ariel, la plus vieille, qui va avoir 10 ans dans un mois. À gauche, Ève. Et en bas à droite, Elia et Anna, la dernière. Évidemment, Mathias au milieu, si vous n'avez pas encore deviné, là. Je suis au cas où, là. Et à travers ça, bien, c'est sûr que là, tout à coup, c'était plus une question d'adoption, c'était une question de ce que Dieu veut faire dans ma vie. Parce que si vous êtes parents, vous avez peut-être réalisé déjà que Seigneur vous donne des enfants et que les enfants sont une maison de formation. Aussi pour eux, mais beaucoup pour nous. Et qu'à travers ça, il veut nous apprendre des choses. Il veut nous amener à être plus humbles, plus à l'écoute. Il veut nous apprendre des choses sur les one size fit deals, c'est-à-dire que, tu sais, tout rentre dans une même boîte, on solutionne les problèmes tout de la même manière. Ils sont pas tous pareils, les enfants. Ils ont pas tous le même tempérament. Ils réagissent pas tous de la même manière. Et vous connaissez ce que je veux dire. Mais là, tout à coup, en plus avec Mathias qui s'ajoutait, et pour lequel on se sentait un peu dépassé, ou ce qu'on n'avait pas de contrôle. On pouvait juste l'aimer, en prendre soin, avec le plus grand dévouement qu'on pouvait, mais limité avec ce qu'on avait comme énergie, ce qu'on avait comme ressources. Et ça nous a amené à dépendre davantage de Dieu. Le Seigneur nous avait préparé, mon épouse et moi, pendant la paternité, juste le mois avant que commencent les crises d'épilepsie de Mathias. On avait été, ça faisait à ce moment-là 10 ans. On va célébrer dans une semaine notre 13e anniversaire de mariage. La semaine passée, je pense, c'était les deux amoureux là-bas, là, Marc puis Sylvie. Là, ils étaient 2 semaines avant nous autres. Alors, je m'en suis souvenu. C'est pas pire, hein, petite mémoire, là. Une petite bulle qui est passée, puis je m'en suis rappelé. Et Seigneur a permis qu'à ce moment-là, on puisse prendre une semaine pour nous comme couple. Mathias avait 4 mois, on l'a fait garder pour la première fois une bonne période de temps. Et on avait décidé qu'après 10 ans, il y a des choses sur lesquelles on avait trouvé la paix dans notre couple, mais pour lesquelles on sentait qu'on retournait en rond sur certains aspects. Et on a décidé d'aller à cœur une semaine avec Daniel Savignac pour juste prendre du ressourcement pour notre couple, quelqu'un qui nous ferait juste du bien à nous, sans les enfants. Et je vais vous dire que ça a été beaucoup préparatoire aussi. Seigneur savait le timing de choses qu'on avait besoin, d'outillage, pour cette période de notre vie qui s'en venait avec Mathias et qu'on aurait des défis qu'on ne connaissait pas. Et ça me fait penser à un texte cette semaine que je partageais. Et vous pouvez regarder ce texte dans Josué, le chapitre 3 et le verset 4. Et dans ce texte, les enfants d'Israël se préparent à traverser le Jourdain pour entrer en terre promise en Israël. Et le Seigneur dit quelque chose de vraiment intéressant, et je l'applique à nous parce que c'est ce qu'on vivait et c'est ce que beaucoup, en fait, que chacun d'entre nous va vivre éventuellement. Le Seigneur leur dit, vous avez besoin de moi, vous allez traverser, au verset 4, et à la toute fin, il mentionne, vous allez traverser dans un chemin que vous n'avez jamais passé par là. Un chemin qu'on traduit inconnu. Mais l'original, il dit juste un chemin par lequel vous n'avez jamais passé par là auparavant. Et pour nous, c'était le Jourdain, c'était un chemin qu'on ne connaissait pas, c'est un chemin sur lequel on n'avait aucun contrôle. Et dans le cas où la maladie frappait, bien tout à coup, c'était dans la même chose que dans ce chapitre-là. Tout à coup, c'était plus juste une petite rivière normale, c'était la saison des pluies dans ce chapitre-là. Et on dit au verset 15 que les eaux du Jourdain débordaient de chaque côté. Et là, tout à coup, ça avait monté la crue de 10 à 20 pieds et ça devient à ce moment-là 150 pieds de large. Et là, tu peux pas juste passer comme ça le Jourdain en cette saison-là. Ça devient un Goliath, ça devient une frontière infranchissable humainement parlant. C'était non seulement donc un chemin inconnu qu'on n'avait jamais passé par là auparavant, c'était un chemin qui nous impressionnait, un chemin plus qu'inconnu, un chemin impressionnant. Et comme je vous l'ai partagé, bien, jusqu'à temps que je frappe un mur et que je me sente démuni, que j'ai tout fait, puis que j'ai tout fait dans mes forces possibles pour réussir, À ce moment-là, je tombe à genoux sur mes deux genoux et je demande de l'aide à Dieu. Et à travers ce temps-là, le Seigneur nous a amenés à beaucoup lui demander de l'aide. Et je remercie le Seigneur de permettre des situations comme ça, parce que sans ça, le Seigneur ne nous amène pas à vivre l'humiliation qui nous porte à dépendre de lui. Et on vit comme orphelin chrétien. Ces situations nous ont amenés, nous, comme parents, moi, Joël Lapierre, à me départir un peu d'être un orphelin chrétien, à m'approcher davantage de mon Père. Et c'est un peu particulier parce qu'il le fait à travers un enfant que nous avons adopté pour nous travailler sur cette dimension-là de notre vie. Il nous a éprouvé pour nous montrer des choses, et ce n'est pas notre fils qui nous a éprouvé, c'est Dieu qui a permis l'épreuve dans l'ensemble de plusieurs facteurs qu'on a vécu en même temps, et dans lesquels Dieu voulait forger notre attitude, notre dépendance en lui. Ça a amené des choix difficiles, comme je l'ai mentionné, sur le travail. Et je remercie le Seigneur que l'Église, l'équipe pastorale ont été tellement encourageants à notre égard dans ces choses-là. Et c'était dur pour moi, et ça, peut-être les hommes peuvent s'identifier plus avec ma lutte, mais ça voulait dire maintenant que j'étais en étant plus à la maison, puis c'est moi qui s'occupe de toutes les visites à l'hôpital, de toute pédiatrie, ergo, physio, les suivis à Sainte-Justine et toutes les à côté qui découlent de tout ça. Je vous donne une idée, il y a 2 semaines, j'ai passé 6 à 7 heures en rendez-vous différents avec Mathias. La semaine passée, on avait juste un rendez-vous, c'était une bonne semaine. Ergo, physio, une fois d'attitude, ça a été bingo. Cette semaine, j'ai la pédiatrie comme rendez-vous. Dans 2 semaines, c'est 2 jours complets à Sainte-Justine pour 4 différents rendez-vous en 2 jours. C'est comme ça, généralement, à l'année longue, pour toutes sortes de suivis, etc., quand on veut profiter des services qui nous sont donnés pour essayer de favoriser. Alors maintenant, Mathias va bien, dans le sens qu'il est bien médicamenté. On a coupé un médicament, un deuxième cette année. Il fonctionne avec un seul. Il se développe davantage. Il marche avec un peu dysphasique, un manque de coordination avec un tonus qui manque, mais qu'il marche maintenant et il se fortifie, il avance. Pas à la rapidité du temps, mais il avance et c'est encourageant. Mais on n'a aucune espèce d'idée dans l'avenir qu'est-ce que ça veut dire pour Mathias, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en termes d'implication avec Mathias. Aucune idée. On le sait pas. Et c'est un chemin complètement inconnu. Mais à travers ça, je le partage parce que je pense que c'est important. Ça touche à un point que nous, les hommes, on lutte beaucoup. J'ai dû lutter avec moi-même, avec ma chair, face à l'accomplissement, avec la productivité. Vous savez, les hommes, et il y a des femmes qui luttent avec ça, je comprends, mais c'est peut-être plus un défi d'homme souvent. On lutte avec la productivité, à se valoriser dans notre travail, à se valoriser dans nos accomplissements, à se valoriser dans le nombre de choses qu'on fait et qu'on accomplit avec succès, etc. Et donc, ce qui se voit à l'apparence pour lequel on bâtit beaucoup notre estime de soi. Et là, le Seigneur avait des choses à m'apprendre. Parce que là, tout à coup, j'étais moins productif. C'était fini, accepter des invitations à l'extérieur d'un bar puis de l'autre qui me faisaient beaucoup de plaisir pour toutes sortes de conférences, toutes sortes de ci puis de ça. Parce que là, je pouvais pas juste laisser ma femme à la maison avec les enfants. Il y avait beaucoup de charges. Et là, tout à coup, ben là, je pouvais plus en faire autant à l'église. Il fallait que je dise non. Il fallait que je dise encore non. Puis là, tout à coup, je comptais mes heures parce que là, si je travaille 4 jours semaine, puis je travaille 45 heures semaine, c'est colon, là. Tu sais, pour le moins, fait que là, il fallait que je compte mes heures pour être responsable avec ce que j'ai dit que je voulais faire pour mon foyer. Il fallait que... Et là, tout à coup, là, c'est un petit peu moins valorisant. Là. C'est comme, je dois dire non, je suis moins présent, je me sens moins productif. Depuis 3 ans et demi, tous les matins, je me lève, j'envoie les 5 enfants, ceux qui sont à l'école, s'occupent de Mathias. Et là, merci Seigneur, depuis 1 mois, Mathias va à la garderie quelques jours dans la semaine. Pas toute la semaine, mais quelques jours. Et ça fait du bien après 10 ans de bébé, de couche et tout ça. Puis il était mûr pour ça, ça le développe parce qu'il est tout seul à la maison. Il a des amis du même âge. Anna, la dernière, est entrée à l'école en maternelle. Fait qu'il va à la garderie de la moitié de la semaine et ça y fait beaucoup de bien, ça fait du bien à nous. Mais ça amenait, pendant tout ce temps-là, à revoir mes priorités, à revoir ma source de valorisation. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, tout à coup, j'étais plus aussi... parce que là, à force de dire non, tu te fais plus appeler. Il dit tout le temps non, lui. Et là, tout à coup, j'en faisais moins de choses à l'église. Je ne pouvais plus en ajouter. Je devais même en avoir moins. Je devais gérer avec ça, être plus présent à la maison. Et là, trouver de la valorisation à travailler à la maison, à m'occuper de mon foyer, de mes enfants, de ma femme. ou bien de bouder, d'être frustré, de ne pas l'accepter et d'être mauvais caractère à la maison parce que je suis obligé de subir ça, parce que je voulais pas être autant à la maison. Je me sens que je suis plus valorisé au travail, puis on me tape plus dans le dos pour dire je suis beau, je suis fin, puis tu sais, puis tout ça, là, tu sais. Nous aussi, les pasteurs, on lutte avec ça en passant, là, juste au cas où, là. Hein, la valorisation de ce que les gens nous donnent comme approbation. Et le Seigneur a dû travailler à trouver ma joie. Et ça s'est fait, je peux vous le dire, pas du jour au lendemain. C'est pas un éclair qui m'est tombé du ciel. Et je dois lutter avec ça, mais moins intensément qu'auparavant. La guérison se fait où ce que je luttais avec ça au jour, deux jours, et là maintenant, je dois lutter avec ça une fois par mois. Où ce que je vais demander à réfléchir, puis à être tenté, puis à lutter avec ça. Et le Seigneur m'a donné de plus en plus de délivrance, de liberté et de joie, de satisfaction d'être à la maison plus que je l'étais auparavant, et d'y trouver de la joie, du plaisir, d'aimer prendre soin de ma femme, d'aimer prendre soin de mes enfants, d'aimer jouir du temps de qualité qu'on en a ensemble, et pas de m'obliger par culpabilité, parce que là, j'ai tellement travaillé que là, je me sens mal, fait que je vais prendre la soirée, tu sais, puis d'aimer prendre le bain avec les enfants puis de les laver. Aimer m'asseoir puis regarder une émission de Star Wars, de Clone War. Puis d'aimer de regarder, ben c'est pas tout le temps ça, là, d'autres affaires, mais ça c'est quand papa en a un petit peu aussi de son côté, là. Mais, vous comprenez ce que je veux dire? De trouver un plaisir, une joie et une valorisation et de dire que Dieu prend plaisir que je fasse cela. Que ça fait plaisir à Dieu et que Dieu est fier de moi quand je prends soin de mon foyer avec amour, avec le cœur présent, et que je suis en train de faire la volonté de Dieu. Et donc, que je suis productif, si je veux me consoler, là, pour Dieu. Mais ça a enlevé beaucoup de notions sur la pression de l'accomplissement, de la performance. Et nous, à l'Église, avec mon collègue Benoît, qui maintenant fait beaucoup de relations d'aide cœur à cœur, ça a amené beaucoup de changements dans notre propre Église, notre culture de pression, d'accomplissement, de performance, dans lequel on est tellement pris dans notre société, dans notre travail. Beaucoup de pression qui se transpose dans l'Église même et dans nos foyers et qui nous démolit à petit feu. La culpabilité. « Ah, je devrais être là, tu sais, manquer une réunion. Ah, ben, il n'est pas un bon chrétien, là, tu sais. Ah, puis là, moi, là, tu sais, il n'y a personne pour prendre ce ministère-là, là, tu sais. Ah, ça n'a pas d'allure. Je vais le prendre, tu sais. » Puis là, on se met de la pression, on s'oblige. Et là, la vie chrétienne devient un paquet de « je fais ci, je fais ça, je dois faire ceci, je dois faire cela. » Et ça, je le vivais dans ma lutte à la maison. Personnellement, Joël Lapierre. Et c'est un combat, et ça m'a aidé à comprendre bien des choses que je ne comprenais pas avant. Je le comprenais juste pas, sans avoir été prouvé et humilié là. Il doit dire souvent, « Seigneur, regarde, je ne sais pas quoi faire avec ça. Faites quoi? Parce que moi, là, je ne sais plus quoi faire. » Et à chaque fois que je vis ça, vous savez ce qui se passe? Je connecte avec le Seigneur Jésus. Vous comprenez ce que je viens de dire? À chaque fois que je vis ça, que je suis humilié, que dans la prière, je suis dépendant, dans ce moment-là de prière où je suis vulnérable, où ce que là, j'ai tassé mon autosuffisance, ça ne marche plus l'autosuffisance, fait que là, j'étais obligé de passer à une autre étape. Là, je connecte avec le Seigneur, je ressens son amour, je ressens sa paix, je ressens sa présence, je ressens qu'il m'aime et qu'il prend soin de moi, qu'il m'envoie des petits clins d'œil pour me dire « je prends soin de toi, Joël ». Là, tu es prêt à me laisser faire. Là. Et c'est dans ces moments-là que je vis la plus grande intimité avec mon Sauveur. Je suis quelqu'un d'entête. C'est dans la tête, ça se passe. C'est intellectuel. Je lis la Bible, c'est intellectuel. Je prie, c'est intellectuel. Je prends soin des gens, ma tendance, c'est d'être intellectuel. Et le Seigneur me travaille à travers la famille, à travers les humiliations, les épreuves qu'il me permet dans ma vie, à dire, Joël, je t'ai donné pas juste une tête, je t'ai donné un cœur avec des émotions. Et j'aimerais aussi avoir tes émotions. J'aimerais que tu ressentes que je t'aime. Parce que je lutte avec la solitude, je lutte avec le fait de me battre tout seul, de me sentir seul et que si je ne me bats pas, il n'y a personne qui va se battre pour moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Même comme chrétien, j'ai le Père Céleste, J'ai des promesses de Dieu puissantes et je vis ça intensément, de me sentir seul. Et je le vis souvent. Et de devoir me battre. Et que si je le fais pas, il n'y a personne qui va faire à ta place. Fait que démerde-toi en bon québécois. Désolé de choquer les petites oreilles là, fragiles, mais c'est la réalité. C'est ça qui se passe. Arrange-toi parce qu'il n'y a personne qui va le faire à ta place. Et ça, c'est pas l'esprit de l'Évangile. L'esprit de l'Évangile est rempli de grâce. L'esprit de l'Évangile, c'est que j'ai un Père céleste qui m'aime, qui a payé un prix incomparable à ce que personne ne peut payer sur terre pour l'acquisition d'un enfant. Et lui, il savait d'avance qu'on allait être. Il savait toutes nos bévues d'avance. Il savait quand on serait comme Pierre, puis qu'on virait de bord, puis on ferait quelque chose de pas d'allure, d'humiliant pour le Seigneur, puis qu'on s'en virait de bord, la tête entre les deux jambes, humilié d'avoir fait honte à Dieu, de se sentir pitoyable. Il savait toutes ces affaires-là, et il nous a aimés quand même. Moi, j'ai pas aimé Mathias d'avance, en sachant tout ce qu'elle allait venir avec. Moi, j'ai pas fait ça. Je l'ai reçu, puis le Seigneur m'a donné la force de vivre avec joie et d'aimer mon fils. Et j'aime mon fils. Je suis fier de mon fils. Peu importe ce qu'il va devenir dans l'avenir. Je l'aime, mon fils, profondément. Et les gens, des fois, nous ont demandé, ouais, mais il y a des gens pour lesquels l'adoption est un peu inconcevable. Et je comprends pourquoi dans notre société aussi. C'est un peu comme, tu ne dois pas l'aimer pareil que les autres. Et plusieurs fois, on m'a demandé, tu l'aimes-tu comme tes filles? Et pour moi, c'était une notion qui était déjà claire avant le mariage, qui était déjà claire une fois mariée, qui était déjà claire avant d'avoir Mathias. Et là, je l'ai vécu avec Mathias. Et pour moi, il n'y a aucune notion de différence. Et j'aime pas plus ou moins Mathias parce qu'il serait plus productif qu'un autre enfant ou plus accomplissant qu'un autre enfant. Parce que le Seigneur, vous savez, il n'est pas comme ça. Il ne nous compare pas dans son amour qu'il a les uns pour les autres selon comment on est beau à l'extérieur ou pas beau, selon le jugement du monde. Il ne nous compare pas sur qui a un beau gros ministère. Lui, je suis particulièrement fier de lui. Lui, il fait ci, ça. Il a tel don que je lui ai donné. Puis là, lui, je lui ai donné tel don. Il y avait des restants, puis je lui ai donné à lui ou à elle. Là, puis il y en a qui sentent comme ça. Hein, Dieu m'a donné les restants de dons. Puis moi, je fonctionne en vie chrétienne, une petite vie chrétienne, puis toi, ben, moi, j'ai les restants dedans. T'sais, moi, je suis là, tu sais, là, rappelez le film, les Twins, là, les jumeaux, là, Arnold Schwarzenegger, puis Danny DeVito, tu sais. Il y en a un gros qui vit dans la vie. Là. Moi, j'ai eu des grands dons. Les autres qui les vivent, moi, j'ai des petits dons, tu sais, les petits restants dedans, là, tu sais. Et Seigneur, lui, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Toutes nos notions de grandeur, toutes nos notions de productivité, de fierté, Dieu, il les a pas, ces notions-là. C'est un Père parfait qui ne compare pas. Et combien ici ont été blessés hein, à être comparés à votre frère, à votre sœur? Et pour lequel encore aujourd'hui, vous avez des blessures profondes d'avoir été comparé à votre frère ou à votre sœur, puis lui ou au voisin. Puis lui, il fait ça. Ou de sentir que votre père, votre mère est moins fier de vous que l'autre, qui lui est docteur ou avocat ou si, là, tu sais, là. Puis toi, tu dis, ben moi, je fais juste ça, tu sais, il me semble que je suis en moins de fierté. Et si je devais demander dans cette salle combien ont des blessures de ce genre-là, on verrait une foule qui n'aurait pas juste une main, il y en a qui te mettraient deux mains. N'est-ce pas? J'aimerais vous dire ce matin que le Seigneur n'est pas comme ça. Celui qui nous a adoptés comme enfant de Dieu, ne fait pas de favoritisme, n'a pas une plus grande fierté de l'un ou de l'autre, ne nous compare pas entre nous, ce que nous faisons. C'est un Père parfait qui ne fait pas ça. Et si ce matin vous vous êtes blessé de ça, j'aimerais vous dire que le Seigneur veut vous accueillir à bras ouverts, vous dire, moi je ne fais pas ça mon fils, ma fille, je t'aime tel que tu es, je suis mort pour toi, tel que tu étais, sans distinction de ce qu'on appelle les accomplissements dans la vie humaine. Parce que ça ne va pas avec les accomplissements de ce qui est céleste, de ce qui est récompensable, de ce qui fait plaisir à Dieu. Et le plan de chacun, et le don de chacun, et le caractère de chacun est unique. Et Dieu nous aime comme on est. Sans comparer. C'est pas merveilleux juste de penser à ça, que Dieu ne me compare pas. Dieu ne me compare pas avec mon collègue Benoît Lavergne, qui a plus d'expérience que moi. Puis lui, il est bon dans ses... Il ne compare pas à lui. Je n'ai pas à me comparer au grand théologien Don Carson, qui est tellement plus intelligent, puis tellement plus perspicace dans ses. Je n'ai pas à me comparer à un grand prédicateur d'à côté. Non, Dieu veut juste que je sois Joël Lapierre avec mes dons, avec ce qu'il m'a donné, que je me compare pas, puis j'accomplisse ce que Dieu veut pour ma vie à moi. Et il ne me jugera pas sur la vie des autres, il va me juger sur ma vie. Et il me montre depuis un certain nombre d'années aussi que ça m'aimera à être plus dépendant et donc à dépendre davantage de la force de l'Esprit de Dieu dans ma vie que de ma force. Que ce que je n'arrive pas à changer, sur lequel je n'ai pas de contrôle, la puissance de l'Esprit a cela. Et que je peux juste lui remettre et lui faire confiance. Le Seigneur nous a profondément marqués par la venue de Matthias. J'irais beaucoup plus pour nous que pour Matthias, fort probablement. Matthias, c'était pour nous et non peut-être nous pour lui. Je ne sais pas qu'est-ce qui va advenir exactement, mais je sais une chose. Dans le texte de Josué, il y a deux choses qui me restent comme espoir dans ce que je ne connais pas du chemin inconnu qui nous a amené dedans. Regardez-le avec moi au verset 10, 11 et 13. Le premier élément, c'est que dans ce chapitre-là, 16 fois on mentionne que l'Arche de l'Alliance était là. L'Arche de l'Alliance était la présence de Dieu dans cette chemin, dans cette épreuve inconnue, dans ce chemin que personne n'avait passé auparavant. L'Arche de l'Alliance allait ouvrir la marche en rentrant dans les eaux avec les prêtres et allait rester là tout au long que les gens allaient passer. Et allait être les derniers, les prêtres qui portaient le coffre, à sortir. Et 16 fois, on mentionne l'Arche de l'Alliance de l'Éternel. L'Arche de l'Alliance de l'Éternel. L'Arche de l'Alliance de l'Éternel. Et ce qu'il est en train de dire dans tout ce chapitre-là, c'est qu'il y avait la présence de Dieu. Et que dans ce chemin inconnu et dans ce territoire que personne n'avait été auparavant et qui était impressionnant et humainement impossible à passer au travers et pour lequel on n'avait aucune explication de ce qui s'en venait après, la présence de Dieu était là, à l'ouverture de l'épreuve, pendant l'épreuve et à la sortie de l'épreuve. Tout au long, le Seigneur garantissait sa présence pour passer au travers et non les forces humaines. Parce que ça, c'est limite, n'est-ce pas? Et ça, c'est récompense aussi. Et ça, c'est la première chose à remarquer. Et ça retourne à ce que le Nouveau Testament nous promet et que Paul nous dit qu'aucune épreuve nous est survenue qui est au-delà de ce que Dieu nous donne, les ressources accessibles pour passer au travers. C'est beau en théorie, c'est facile à citer et à apprendre par cœur à l'école de dimanche, c'est excellent à citer. Et c'est une autre chose de le ressentir et de le croire profondément maintenant quand je suis dans la détresse. Et c'est ce que je parle du ressentir. J'en sais plein de choses dans ma tête. Mais quand je frappe le mur et qu'émotionnellement je suis à terre et que je dépends de Dieu, c'est là que ça passe ou ça casse. Et dans la prière, le Seigneur fait ressentir cette force accessible, cette source qu'on ne peut expliquer humainement. Et l'autre chose intéressante qu'il mentionne au verset 10, 11 et 13, on dit qui est ce Dieu de l'Arche de l'Alliance? On dit El Hai, le Dieu vivant, au verset 10. Le Dieu vivant est là. Ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. Et aussi, il mentionne au verset 11, et c'est particulier parce que le mot Seigneur dans ce contexte-là, dans le livre, n'est pas fréquent du tout. C'est toujours l'Éternel, l'Éternel, les élus ici. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre. Et il répète au verset 13, le Seigneur de toute la terre. Adonai kol haaretz. C'est très, très important cette déclaration en hébreu qui dit là, c'est le Dieu de toute la terre, celui qui est le créateur, celui qui contrôle tout l'environnement, qui contrôle tout ce qui est terrestre et qui en est l'Adonai, le maître. Est avec vous. Sa présence, et là, sa présence est définie. Elle est vivante et elle maîtrise tout. Elle est souveraine et elle est accessible et ressentable parce que Dieu est vivant. C'est pas une statue. C'est pas juste quelque chose d'intellectuel. C'est quelque chose de réel, de palpable, qu'on peut ressentir. Et les enfants d'Israël, ce jour-là, l'ont ressenti. Et quand on passe à une épreuve, que ce soit ce que nous avons vécu, vous avez des épreuves qui sont qualifiées au niveau humain seraient bien plus grandes. Du cancer, de toutes sortes de maladies, de toutes sortes de situations familiales. On aurait pu raconter probablement l'histoire de bien des gens ici plutôt qu'inviter Joël Lapierre. J'en suis certain. Vous n'en manquez pas d'histoire, de difficulté. Le Seigneur, à travers ses épreuves, lorsqu'on connecte avec lui et qu'on ressent cette dépendance, vient toucher nos cœurs et nous fait ressentir sa présence. Ressenti. Pas juste de le savoir, de le ressentir, qu'il est là, qu'il t'aime sans comparer aux autres, qu'il t'aime d'un amour qui savait tout d'avance et qui pourtant le fait, qu'il t'aime sans te faire une checklist. J'ai prêché dans le passé des sermons pour lesquels j'ai honte aujourd'hui. Ou ce que des fois, je mettais une checklist littéralement. Je me rappelle d'un sermon il y a à peu près 10 ans, 9 ans de tout ça. Premier amour. J'ai mis à la fin de message quelque chose pour évaluer un peu ma première amour. Oh boy, j'ai honte aujourd'hui même de vous le dire. Parce que c'est encore justement cette performance. Que moi, j'ai tout ça, puis là, je check. Ah, moi, j'ai la première amour. Je sors du sermon, bravo. L'autre qui s'en dit, moi, j'ai rien coché le matin, je suis pitoyable. Puis est-ce qu'on a construit quelque chose? Rien. Rien. On a nourri l'un ou l'autre des excès humains et on tombe facilement dans ce piège-là, dans tout ce qu'on vit. Je n'ai pas un ordre précis dans tout ce que je vous ai partagé ce matin. Je vous partage de mon cru, de notre expérience avec Mathias. Je peux vous dire que je recommencerai n'importe quand, même si j'ai pleuré plus d'une fois, que j'ai langui sans réponse et que je me suis ramassé à genoux sans réponse et que j'ai senti de la solitude et que j'ai lutté avec cela, que j'ai eu des moments pas agréables, mais sans lequel je ne pourrais pas vous raconter ce que je comprends aujourd'hui, que je ne pourrais pas comprendre beaucoup de souffrances dans l'Église. Dieu le voulait pour moi. Dieu voulait Mathias pour moi. Et j'espère ce matin, dans les choses que je vous partage, ça vient rejoindre cette dynamique de l'épreuve de dépendance avec Dieu et cette dynamique qui touche l'autosuffisance et cette dynamique d'adoption. Les deux vont ensemble. Il y a une dynamique qui se passe, une lutte qu'on a dans l'Église. Et peut-être ce matin, on peut juste prendre un temps pour prier ensemble. J'aimerais vous conduire en prière et qu'on peut juste poser des questions au Seigneur, l'interroger, que le Seigneur puisse vous parler dans la prière. Et vous savez, si vous le demandez au Seigneur, le Seigneur va interagir avec vous. Oh, comment? Fouillez-moi. Je n'ai pas la réponse. Le Seigneur le fait pour chaque personne d'une manière unique, nous rencontre dans nos caractères, nos histoires, jusqu'à qu'on pense avoir mis d'une boîte, il n'est pas dans la boîte. Mais il veut vous rencontrer. Le Seigneur Jésus veut avoir cette intimité avec vous. Il veut que vous viviez pleinement ce sentiment d'être aimé, adopté par Dieu. Le Seigneur, ce matin, vous invite à vivre la paternité du Père Céleste. Le Seigneur vous invite ce matin à vivre la fraternité du Fils de Dieu. Le Seigneur, ce matin, vous invite à cohabiter avec l'Esprit de Dieu. Prions ensemble. Père Céleste, tellement de mots, de paroles peuvent être dits, mais à la fin de la journée, Seigneur, on veut juste te parler et te dire comment on se sent, Seigneur. Seigneur, est-ce que tu m'aimes comme je suis vraiment? Ou c'est juste des idées que je me fais? Seigneur, je lutte avec la solitude si souvent. Je sais dans ma tête que tu es là, mais j'ai de la misère à le ressentir. Je lutte à te faire confiance, à croire dans ta présence réelle. Et je me débat, puis je suis épuisé, Seigneur, ce matin. Je le confesse, Seigneur, je suis épuisé. Je vis ma vie chrétienne de mes forces et je suis à terre, j'y arrive pas. Oh, les gens autour de moi pensent que je réussis, ça a de l'air bon, mais dans la réalité, dans ma chambre, tout seul, quand je suis avec toi, je me sens pas à la hauteur. Je me sens même souvent pas aimé. Je lutte, Seigneur, à comprendre et à ressentir ton amour. Et je sais, Seigneur, ce que la Bible dit. On n'a pas besoin de me le répéter, je le sais. Je me sens même mal de ne pas le croire vraiment dans mon quotidien. Seigneur, tu peux-tu me rencontrer là où je suis? Est-ce que tu peux, Seigneur, me parler dans la prière, dans les jours qui suivent, dans la lecture, dans les gens, peu importe comme tu voudras, Seigneur. me lancer un clin d'œil pour me faire ressentir ton amour. J'ai tellement besoin de le ressentir et pas juste de le savoir dans ma tête. J'ai besoin de tes bras qui me caressent. J'ai besoin de le ressentir comme ces enfants que Jésus avait dit aux apôtres, « Empêche-les pas de venir à moi » et que tu les as accueillis, Seigneur, tu les as mis sur tes jambes, ça leur a donné une caresse. Ils sont certainement sentis aimés, Seigneur, ces enfants-là, par toi. Moi, je voudrais ressentir ça. Je voudrais ressentir que je peux les masser sur tes genoux et d'être écouté, de te parler dans le creux de l'oreille, que tu ris avec moi, que je n'ai pas peur d'être jugé, que tu m'acceptes comme je suis, que je peux te raconter mes bêtises puis tu ne vas pas me gifler ou me repousser, Seigneur. Je me sens tellement souvent comme ça. Seigneur, viens me rencontrer dans mes besoins. Je voudrais tellement que tu sois fier de moi, Seigneur. Je me sens pas souvent que tu sois fier de moi et je voudrais juste que tu puisses me faire sentir ton amour et ressentir que tu es fier de moi, même si je fais belle et bêtise. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de ton Esprit Saint. Sans ton esprit, je ne pourrais pas changer mes défauts de caractère. Je ne pourrais pas faire ce qui dépasse. Je ne pourrais pas passer à travers l'anxiété qui me ronge. Je ne pourrais pas pardonner. Je ne pourrais pas rien faire de tout ça si ça me dépasse, Seigneur. J'ai besoin de toi. Remplis-moi de ton esprit. Rencontre-moi dans mes particularités à moi. Je veux vivre la paternité du Père Céleste. Je veux vivre, Seigneur, la fraternité avec le Fils de Dieu. Je veux vivre, Seigneur, la cohabitation avec ton esprit. Ce n'est pas du luxe, Seigneur. J'en ai désespérément besoin. Je suis tanné, je suis écœuré de vivre ma vie chrétienne comme un orphelin, Seigneur. Viens à moi ce matin. Rencontre-moi. Je te le demande dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci beaucoup de votre attention.
Merci pour votre patience. Ce matin, on termine un petit peu plus tard. Merci, Joël. Je vais inviter